Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au 34e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Blood Fire Quest, le roman de Terry Brooks, second tome de la trilogie The Dark Legacy of Shannara. Ça a vraiment rien en commun, sauf que Blood Fire est probablement le mot le plus fucking metal qui a jamais été mis devant le mot Quest, et Divan doit probablement être à l'opposé.
Ouais, c'est assez diamétralement, ouais.
Je suis Mathieu Bonnet, toujours en compagnie de Danny Revel.
Salut!
Et de la tête de fond. Fuck, j'ai mis où la tête de fond?
Ouais, parti.
Bon, en tout cas, anyway, Jeff revient dans le prochain vrai épisode de Divan Quest, donc, mais il est pas là encore cette semaine pour une dernière fois. On commence à s'ennuyer.
Quand même.
Bon, ben écoute, on a assez parlé.
Ah oh oui, voilà. On s'ennuie, mais pas tant, tu sais.
Qu'est-ce que t'as fait de beau cette semaine, Dan?
Ben, moi, je dois avouer que j'ai continué à faire grandir cette semaine ma collection de jeux de Pokémon.
Ah, OK.
Ouais. Fait que merci, Matt, de me supporter dans l'indépendance, là, parce que c'est un peu toi qui m'a renvoyé...
Ah, écoute, après avoir fait mes sélections, quand je vois des jeux à acheter à des bons deals, s'il n'y a rien qui m'intéresse, après ça, je te le passe. Sinon, je les achète tous.
Les sloppy seconds de maths. Ça, ouais, on parle de jeu, tu sais. Yeah. Fait que, ouais, j'ai upgradé ça avec Ruby Sapphire au Game Boy Advance. Puis Leaf Green aussi, qui est une version refaite, dans le fond, là, du jeu original, qui est quand même mon préféré depuis toujours.
Bon.
Justement, j'ai décidé de rejouer un petit peu à Leaf Green, tu sais, mais je connais quand même le jeu. Fait que j'ai décidé d'y aller avec un Nuzlocke Challenge.
Oui.
Tu connais le Nuzlocke Challenge?
Oui, ben il y a quelqu'un que je suis sur Twitter qui le faisait. C'est la seule raison pourquoi je le sais, parce que j'aurais jamais su sinon.
Oui, oui. Ben j'explique pour ceux qui ne sont pas des crackpots comme moi. Dans le fond, c'est comme un set de règles additionnelles là, pour rendre plus difficile une partie de Pokémon, puis plus intéressante surtout quand ça fait 272 fois que tu le fais. Là. Mm-hmm. Ça vient d'un webcomic qui s'appelle Nuzlocke, justement, où est-ce que le personnage est comme un peu seté les premières règles. Les règles, dans le fond, de base de ce challenge-là, c'est si t'as un Pokémon qui feint, ben, il est considéré comme mort, fait que tu le releases, il est juste mort, fini, comme scrap. Mm-hmm. Un genre de permadeath là, dans Pokémon. tu peux seulement attraper le premier Pokémon que tu rencontres dans une zone. Fait que si t'arrives dans une zone, il y a un Pokémon, s'il sauve ou s'il meurt pendant que tu te bats contre, tant pis.
Wow.
Fait que ça réduit beaucoup, beaucoup ta team, puis ça limite aussi tes possibilités de stratégie. Il faut que tu gères un peu ça. Surtout quand au début, tu pognes des Rattata et des Pidgey. C'est pas tant une règle, mais un consensus que tes Pokémon, quand tu les attrapes, tu leur donnes des noms pour créer un peu plus un sentiment.
Surtout
de...
tu te retrouves à en avoir beaucoup moins.
Ben, c'est ça. Fait que voilà. Puis si t'as un blackout où est-ce que tous tes Pokémon y meurent, ben, c'est un game over. Même s'il te reste des Pokémon dans le computer, c'est un blackout.
Permadeath.
C'est fini. Sans être dit non plus spécifiquement, généralement, les gens ils définissent qu'il n'y a pas vraiment de trade. Là. La seule affaire qui pourrait être un peu, c'est genre un trade puis un trade back pour faire évoluer. Ça, genre, ouais. En général, les gens font comme, OK, ça compte pas. Sinon, il y a un paquet d'autres règles optionnelles là, que tu pourrais rajouter, mais ça, c'est comme un peu les règles de base. Là.
Bon, on comprend que c'est un challenge.
Ben, c'est un challenge. Puis je l'avais jamais vraiment fait. Je l'avais un petit peu essayé de m'en aller. J'ai décidé cette fois-là de le faire pour vrai. Puis en parlant, ça m'oblige à
faire quelque chose. À assumer.
Fait que résultat, premier essai. Un échec frappant après 2 heures de jeu contre Brock, qui m'a démoli. J'ai fait l'erreur, je pense, de tout le monde qui commence un Nuzlocke Challenge, puis j'ai choisi un peu avec mon cœur en y allant avec Charmander, qui est un de mes préférés.
Puis qui n'est pas efficace au début.
Ben, il est zéro efficace au début. Mm-hmm. Je voyais que des gens qui réussissaient à quand même le faire, mais bon, un critical hit d'en face a fait que mon Charmander n'a pas survécu. Puis après ça, ben Charles le Charmander, ça c'était son. Pierrette le Pidgey, Sylvain le Spearow, puis Paul le Pikachu ont pas fait le poids contre un Onix.
J'aime bien les allitérations.
Oui, ouais, c'est mon plaisir. Donc, deuxième essai, je suis allé avec Bernard le Bulbasaur. à peu près 1 heure de fait à date, là. Puis je peux vous updater sur ma team en live présentement. J'ai présentement Manuel le Mankey, Pierre le Pidgey, puis Rachel le Rattata.
C'est bon, tes derniers noms étaient plus modernes.
Ouais, ouais. Dit, bon, ça dépend.
C'est-tu un choix? Est-ce que c'est des gens de ton entourage ou t'as juste choisi de...
J'essaie d'y aller avec au moins la première syllabe, si possible, ou au moins la première lettre.
OK.
Ouais, j'y vois à la Marvel.
Ben oui, sûr. C'est
fait que ben, je vous updaterai après voir ce qui va se passer. Là, je suis rendu même pas encore à la forêt. On verra ce qui se passe avec ça. Mais,
bonne chance.
C'est quand même amusant. Puis là, tu fais comme... Ah, t'en as un qui meurt, tu pleures, t'arrives dans une route, tu le tues avec un critical... Oh, déception. Ah. Bref, c'est ça. C'est quand même le fun, par exemple. Ça donne un petit bout de le fun à un jeu qui est quand même très, très connu. Sinon, j'ai toujours encore en trial avec... Rock the fire! Yeah! Rock the fire! Rock the fire! Puis, pas grand-chose de plus à dire. Là. On a continué d'avancer. C'est sur cette boss héroïque. Puis, on continue ça. Samedi, j'ai un petit peu essayé Akmud aussi à cause de Matt. Akmod plutôt. Akmod, ça c'est
Akmod,
plus,
ouais.
Plus Jeff qui connaît des Akmod. Là.
Tu racistes, ça?
Non.
OK, c'est bon. Je vais juste valider.
Il y a probablement plus de Akmod dans son bout que dans le mien. Oui,
c'est ça.
Saint-Julien, tu sais. Puis, tu sais, si vous n'étiez pas convaincu la dernière fois là, que c'est un jeu essayé, là, je rajoute ma voix à la tienne. C'est
pendant que tu en parles, plaisant. Par contre, j'aimerais faire un petit correctif.
Yes.
Je ne me trompe pas, j'avais dit que la campagne tutoriel était comme 4 à 6 heures ou dans ce coin-là que j'avais dit. C'est pas mal plus short que ça.
Okay.
C'est plus comme, mettons, 3-4 heures parce qu'ils ont fait une mise à jour du dernier défi qui le rend... Bref, t'as une limite de temps puis ils reset à peu près à toutes les actions maintenant, mais pas avant. Ce qui faisait que passer les firewalls à la fin, là, c'était très difficile puis tu recommençais souvent la séquence. Là, il y a beaucoup allégé ça puis... C'est un peu. C'est une bonne idée.
Ben, ça le raccourcit, mais dans le fond, ça enlève du temps qui est quasiment.
C'est ça, c'était pas une longueur qui était agréable.
Non, c'est
là.
Ça. Là.
Je connaissais une fille qui disait ça. Ah. Ça
Sinon.
Oui, merci.
M'ennuyais. Sinon, côté télé, j'ai découvert la série Netflix The Ranch la semaine passée, qui est l'histoire d'un joueur de football assez moyen là, qui revient habiter sur le ranch familial avec son père puis son frère au Colorado. Une sitcom assez classique là, avec des rires en canne puis tout ça. Puis ça veut pas quand même pas dire que c'est pas mauditement drôle, même si c'est classique. Là. J'ai eu quelques vrais moments là, de rire audible, tout seul devant mon écran, là, ce qui est quand même assez rare là, en regardant
c'est,
la télé.
Comme
là.
On a déjà dit, c'est la preuve absolue de,
ouais.
De l'efficacité.
Puis le fan de That 70 Show en moi est quand même très très content de retrouver au petit écran Danny Masterson puis Ashton Kutcher ensemble dans la peau des deux frères qui sont sur le ranch. Là. Masterson qui jouait Hyde. Puis Ashton Kutcher, ben,
Kelso.
Donc, ouais, c'est quand même très, très agréable de revoir. Ils ont une belle complicité à l'écran, puis c'est vraiment épais puis drôle. Là. Belle petite surprise aussi, justement, de voir popper dans la deuxième partie de la saison. Là. C'est comme la saison est en deux parties de 10 épisodes. De voir popper Wilmer Valderrama.
Qui est Fez.
Mm-hmm. Sérieux, je ne l'ai pas reconnu tout de suite là, parce qu'il a quand même vraiment plus changé que les deux autres. Là. Écoute, la face doit y avoir élargi de 8 pouces. Là,
oh,
il est quand même un peu
pas. Il s'est Val Kilmerisé.
Genre. Mais en même temps, c'est pas.
Mais non. Mais...
La grosseur qu'il avait Fez.
Ouais, c'est ça. Puis c'était un enfant, calé.
Puis il y a des rumeurs qui parlent de caméo de Mila Kunis puis Laura Prepon là, qui jouait Jackie puis Donna là, qui ont sur Twitter on a vu une photo d'eux autres mais s'ils étaient dans l'épisode là, je les ai pas vus là, ou ça m'a peut-être échappé là. Bref ouais fait que très bon show avec des gags de battes de bœuf là fait que quatre pattes de divan juste pour ça
all right.
Puis dans un autre ordre d'idée, j'ai découvert cette semaine le 19e amendement de la Constitution américaine.
Ouais.
Je le connaissais pas. C'est généralement, tu connais le deuxième, là, mais pas le 19e. Ouais. Le 19e amendement, oui, c'est quoi? Ben, c'est le droit de vote des femmes. Ah, j'ai découvert parce qu'il y a certains supporters de Trump qui sont mis à dire qu'on devrait abolir le 19e amendement quand il y a une carte qui a sorti qui montrait que si tu enlevais le vote des femmes, Trump rentrait mais à côté.
Oh!
Ah, ça mérite plus que ça, là.
Ouais, j'ai...
Sérieux, j'ai honte. Là. Comment tu peux avoir cette réflexion-là? Mais bon, j'ai quand même vu une couple de tweets intéressants en rapport à ça. Là. Mon préféré, je pense que c'était quelqu'un qui dit « Ben, je suis content, je pensais pas que les supporters de Trump connaissaient plus que le deuxième amendement.
» Ou je me disais « Vous savez compter jusqu'à 19. »
Vous savez compter jusqu'à 19. Ouais, mais bon, hein, on découvre la Constitution américaine dans toute sa splendeur et surtout certaines strates de la population dans toute leur... Ouais, c'est ça. Hey, toi, Matt, ouais. T'as fait de bon?
Hey, ben, je vais dire j'ai découvert, parce que j'ai l'impression que je l'avais déjà vu dans le passé, mais que j'avais complètement oublié son existence, d'une petite tablette Windows qui s'appelle la Lynx Vision 8. C'est disponible en Angleterre seulement, fait que c'est sûr que ça nous distance un petit peu tout ça, mais comme toutes les tablettes de ce genre-là, anyway, c'est chargé en micro USB, puis ça roule Windows, hein, fait qu'il n'y a pas vraiment de barrière à importer le produit, bingo. Mais qu'est-ce qui la rend intéressante, cette petite tablette Windows-là, parce qu'on s'entend que ce pas des produits très, très convoitants en général. Imaginez que c'est comme la manette, le gamepad de la Wii U, mais pour PC. Fait que c'est une tablette Windows, mais qui a l'ensemble de contrôle complet d'un Xbox One dessus, qui est conçu pour streamer le Xbox One, parce que le Xbox One a la capacité de streamer vers Windows 10, et évidemment de faire du streaming de Steam. Puis c'est là que ça m'intéresse particulièrement.
C'est vraiment cool.
Et ouais, y en a qui disent aussi que ça vaut la peine pour les émulateurs, là, en mettant des trucs comme Emulation Station, là, qu'on retrouve sur Raspberry Pi habituellement. Mais bref, comme quand t'es pas pogné en streaming, bref, si tu la transportes avec toi pour faire de l'émulation, c'est une super belle petite plateforme. Ça vaut aux alentours, là, conversion faite, c'est à peu près 250$. Okay. Mais bon, j'essaie d'en trouver un meilleur deal. Puis y en a une qui m'a filé entre les doigts sur eBay, mais ce n'est que partie remise.
Ben justement, moi j'en ai gagné une sur eBay cette semaine. Non,
ça m'a dit traqué. J'espère pouvoir vous en faire une review un jour parce que ça, Ça tomberait. Yes. Genre de produit qui m'intéresse beaucoup. Mm. Ensuite, on a eu droit au Steam Dev Days la semaine avant l'enregistrement de l'épisode actuel.
Ça se dit bien quand même, bon, ça coule.
Steam Dev Days, mm. Pas spé.
Okay.
Ils ont annoncé qu'il allait avoir la Steam Link intégrée aux nouvelles télé Samsung.
Ah.
Bon, j'espère juste que c'est. Que les télés sont plus robustes que les téléphones, hein? Parce que j'aimerais ça pas jouer à un jeu comme Call of Duty puis avoir une expérience particulièrement immersive quand ma TV me saute d'en face.
J'avoue que c'est moins.
Mais cela dit, c'est vraiment cool de voir justement l'idée de la Steam Link, qui est un produit trop peu populaire à notre
avis. Ouais.
On a déjà parlé, là, c'est une petite boîte qui nous permet, sans avoir un ordi au complet branché sur un écran ou une télé, de streamer un jeu Steam de votre ordinateur vers n'importe quel écran, bref, qui a cet appareil-là dessus, ouais, qui vaut 59$.
Ouais, c'est ça, pour un prix ridicule surtout, là.
Bingo. En utilisant tous vos périphériques, manettes, claviers, souris, etc. Puis là, bref, ça pourrait être intégré nativement dans les. Ça va être intégré nativement dans les prochaines télé Samsung.
C'est pas fou, parce qu'à la grosseur de la petite boîte du Steam Link, c'est sûr que tu peux facilement comme.
Bon, puis disons que tu as un processeur, on s'entend que c'est pas sorcier.
C'est bien cool.
Puis ils ont présenté aussi un nouveau prototype de manette Steam VR, donc pour les kits de réalité virtuelle comme le mien. La manette présente quoi de vraiment intéressant, parce qu'il y a vraiment comme un revirement de situation un peu, si on veut, parce que Oculus ont présenté leur manette qui va sortir bientôt, puis elle présente des avantages intéressants au niveau de la présence des mains. Okay. Le feeling d'avoir les mains libres, même si on a une manette dans les mains. Mais on va encore plus loin avec Steam VR où est-ce que la manette tient sur la main sans qu'on la tienne cool, nous-mêmes. Bref, elle tient comme contre la paume de la main et le dos. Mais la manette est quand même là quand on ferme la main, ce qui fait qu'elle nous donne les boutons, les joysticks, puis elle est capable de détecter quand nos doigts approchent. Donc, elle peut avoir la présence complète de la main.
Ah, c'est vraiment ça.
Tous ceux qui l'ont essayé en prototype ont dit que c'était vraiment cool. Bon, c'est un peu triste considérant que ça va faire que je vais racheter mes manettes quand elle va sortir, puis j'ai déjà tout un kit qui est assez dispendieux, mais je pense que c'est une belle direction où aller avec ces produits-là.
Mais tu sais, comme c'est le genre de produit que justement, quand il va y avoir des itérations sur le matériel, c'est sûr que demander s'il va te sortir un casque wireless ou de quoi que tu vas vouloir acheter.
Ouais, puis j'aime mieux aussi que ce soit itératif comme ça. Tu sais, que là, on change les manettes, mais tout ton ensemble, tout le reste du système, parce qu'il est assez important, reste en place.
Ben oui.
On fait juste changer ces morceaux-là, tu sais, puis c'est une des forces du système, je pense. Et finalement, pour la semaine, j'ai découvert un petit jeu hier qui s'appelle Vintage Game Shop.
C'est celui que tu m'as dit de ne pas googler.
Ouais, j'ai dit check pas ça parce que je suis sûr que tu vas avoir le goût, mais j'aime mieux que tu ne le saches pas pendant que je t'en parle. Il est disponible sur Android, même si c'est un petit jeu flash sur PC, il est quand même disponible sur Android.
Okay.
Bon, c'est sûr que c'est un peu plus choppy comme performance, mais il est là. Il est disponible sur Armor Games, on mettra le lien sur les médias sociaux. Je pourrais le décrire comme un sim hostie de revendeur à marde pour nos amis les collectionneurs. C'est un jeu qui se veut un peu éducatif. Mais bref, on doit acheter des produits aux clients qui viennent nous visiter. Plein de jeux rétro. Basés sur des prix réels actuellement sur le marché.
C'est quand même cool.
Selon la condition du jeu. Mais on doit tester le jeu, voir s'il fonctionne. Tu sais, c'est une petite interface texte. C'est bien, bien basic. Là. Mais on doit le tester. Après ça, on peut demander de l'historique, parce qu'évidemment, le client, c'est à peu près tout l'historique du produit, mais bon. Puis quand on le teste, on peut même aller voir genre un lien YouTube pour aller voir du gameplay. Là. Bon. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de background là, genre sur l'histoire du produit quand on pose des questions, ou on peut directement demander combien tu veux. Puis selon le contexte, des fois, le client le sait pas, des fois, il demande vraiment beaucoup. Tu peux demander à un expert. Finalement, ça fait plus comme Pawn Stars de gaming que d'autres choses. Mais ça tombe un petit peu en miettes, par contre, comme expérience, parce que tu trouveras jamais un deal parce que tu peux acheter le jeu à moins que la moitié de la valeur que tu vas leur vendre. Okay. Donc, le côté maudit revendeur sale.
Contrairement à la vraie vie, là, des fois, tu vas dans un marché aux puces ou que tu arrêtes sur le bord de la rue en revenant de faire ton épicerie, puis il y a un dude qui vend. Faire cool,
ça m'arrive pas, ça. Ah, ouais, non, mais je dirais que c'est plus. Le bout de ce que ça me semble irréaliste, c'est le peu de fois que je vais mettre les pieds dans les boutiques ici à Joliette de revente de jeux usagés, puis que j'entends genre quelqu'un qui arrive avec des jeux, puis il se fait offrir là. Des horreurs. Là, ouais. J'ai un Pokémon Red complet dans la boîte. Oh, ouais, c'est sûr que j'ai vendu tant bien, mais 6 piastres. Là, t'es comme. T'as juste le goût de genre.
D'autres, je t'en donne 20.
Ah, c'est comme je le veux même pas, mais qui mange de la merde. Non, c'est. Ouais. Mais bref, joke à part, le jeu est. Puis bref, à tous les jours, à la fin des journées, on voit ce qu'on a vendu ou non.
Okay.
Mais selon la rareté de certains produits, ça va être plus long. T'sais, quand tu ramasses un cabinet d'arcade ou un Mario 64 autographié, mettons. Bon, ça joue là-dessus. Fait que tu sais, c'est simple, mais c'est cute. Pas beaucoup de valeur, mais c'est là ce petit maudit côté-là de Game Dev Story qui te fait jouer juste une semaine de plus. Parce que tout le temps, 5 jours, puis il te fait ton bilan de ton cash.
Ouais.
Mais pas de tes actifs, pas de ton inventaire. Puis là, des fois, t'es comme, ah ouais, mais là, j'ai ramassé genre un cabinet de Pac-Man, mais écrit Pac-Man, ils valent super cher. Fait que c'est sûr que je vais le revendre, mais là, mon bilan est dans le trou, là. Moi, juste faire l'autre semaine pour que le bilan remonte. Puis là, tu ouais, pars tu comme ça. Puis là, t'es parti pendant une heure et demie. Fait que c'est ça pour moi. Puis Jeff?
Pour tous les coqs de ce monde.
Hey, non, il va falloir qu'il passe à d'autres choses.
Même année, tu sais.
Ça devient un petit perso. Mm. Le site de nouvelles technologiques Ars Technica rapportait que Pepsi, dans un élan de conscience sociale, a présenté un plan visant à réduire le sucre dans ses breuvages contenant plus de 100 calories par portion.
C'est drôle, conscience sociale puis Pepsi dans la même phrase.
Non, écoute, c'est tellement une nouvelle importante que même LCN aujourd'hui en parlait. Fait que tu veux conscience sociale puis de quoi de bizarre, là? On va rajouter LCN au bout. Qu'est-ce que cet article-là fait sur un site de nouvelles technologiques? Je suis pas sûr, mais trop tard, parce que je l'ai lu.
C'est ça.
Fait que pour question de gaspiller mon temps, fait que mais je continue. Le plan de Pepsi prévoit attaquer le problème d'obésité urgent qui affecte notre société en réduisant la quantité de sucre d'ici 9 ans. Ouais. C'est urgent en esti, ça.
Fait que là, tu veux dire que la compagnie qui fait partie de ceux qui ont le plus causé des problèmes d'obésité avec leurs boissons sucrées vont réduire le sucre, mais en dedans de 9 ans.
Ouais, puis tu sais, rendu dans 9 ans, s'ils l'ont pas fait, ça va être comme « Ah, swing and a miss hein? », c'est pas grave, tu sais. Mais puis pendant ce temps-là, on a la World Health Organization, là, l'organisme de la santé mondiale, qui presse les gouvernements d'adopter une soda tax, des taxes sur les boissons gazeuses pour décourager les consommateurs d'acheter les produits, montrant que leur connaissance de la santé s'arrête avant de toucher aux dépendances, à la pauvreté et à toute l'histoire du tabac, finalement. Mais bon, avant qu'on dérape un petit peu trop, revenons au cas de Pepsi.
Merci, merci. Ouais.
Certains ont décrié que la compagnie n'en faisait pas assez. Et cette dernière s'est bien défendue en disant offrir plusieurs produits présentement qui sont en dessous des 100 calories par portion. Par exemple, la bébé canette de Pepsi 7.5 onces qui coûte trop cher pour son contenu. Et bien sûr, les produits de la gamme Aquafina.
Ouais. J'aime autant qu'on change de sujet avant que je pète un plomb.
Alors, selon un article de Kotaku, Pepsi, non, c'est pas vrai. Selon un article de Kotaku, un joueur de EVE Online du nom de Older2K a offert 75 000 $ en vrai argent, pas en ISK, là, l'argent fictif de EVE Online, payable par PayPal à quiconque délogerait la faction Hard Knox du Star System qu'ils habitent. Évidemment, l'argent vise plus à attirer un groupe de joueurs qu'un seul, vu qu'il semblerait que le système soit intensément protégé, Hard Knox n'étant pas une gang de deux de pique. Bon, il semblerait que tout serait illégal selon les règles de EVE Online, là, l'échange de vrai argent étant contre les règles du jeu. Puis là, la conversion de dollars américains à ISK, c'est un exercice un peu complexe et ultimement futile, dû à plein de facteurs que j'ai lus dans mes recherches sans vraiment tout comprendre.
OK.
Voilà.
Ça arrive.
Ben voilà, c'est de la rigueur, ça. Puis parlant de ça, l'article de Kotaku explique un peu la situation, là, mais renvoie un article de PC Gamer qui décrivent comme plus compréhensif. Mais j'oserais pas dire compréhensible. Mais bon, hein, pour les besoins de notre capacité d'attention, il semblerait que le conflit ait débuté lors d'un échange privé entre Older2K et He Who Shall Not Be Espace Named, que pour les besoins de la cause, j'appellerai
Matt Damon.
Bon, merci. Mmh.
À un moment donné, Older2K aurait donné son numéro de cellulaire à
Matt Damon
pour régler ça de vive voix, et ce dernier aurait distribué le numéro à d'autres, et Older2K aurait reçu plusieurs appels indésirables. Le numéro en question est le cellulaire de travail de Older2K, lequel travaille, selon ses dires, pour une banque, et il gère des affaires de droit international. C'est drôle à quel point, quand on gratte, ça ressemble plus à un reality show qu'à une grosse guerre épique.
Ah, c'est ça. Mmh.
Mais bon, une source a révélé en exclusivité à Divan Quest que le conflit aurait débuté lorsque Older2K aurait lancé l'insulte suivante.
Your mother was a hamster and your father smelt of elderberries.
Et écoute, je sais pas pour toi, mais moi j'aurais pété.
Non, non, c'est clair, là, j'aurais comme.
Alors, une nouvelle que j'arrive pas à croire que j'ai manqué en septembre. Un inventeur visionnaire australien a inventé et rapidement breveté une nouvelle façon d'avoir l'air d'un gros crise des pans publics. Le hamdog. Écoutons, je parle donc bien de bouffe, moi.
Ah ouais, t'as-tu faim?
Tu peux. Le hamdog est la combinaison directe d'un hamburger et d'un hot dog.
Oui, oui. Oui.
Le brevet s'applique en fait au pain, qui est carrément un pain hamburger avec deux parties allongées chaque côté pour bien accommoder la saucisse au centre. Ça aussi, je connais une fille qui a déjà dit ça. Ah. Entouré des deux moitiés de la tapette de viande. L'idée avait été présentée à Shark Tank Australia, qui est comme les dragons.
Oh, les dragons.
Bon. Et les juges avaient trouvé l'idée complètement conne. Mais plutôt que de se laisser ralentir par le gros bon sens, Mark Murray, l'inventeur visionnaire, savait que le bon sens n'arrêterait pas le désir des consommateurs de trouver de quoi d'encore plus dégueulasse qu'un chili dog à se crisser dans la gueule. Eh bien, il est maintenant possible d'ouvrir une franchise Hamdog pour 10 000 $. Par contre, la seule chose que j'arrive pas à concevoir, là, c'est qu'il a manqué la chance d'appeler ça un hot damn.
Hot damn!
Et finalement, la saga des Galaxy Note 7 ne semble pas encore avoir de fin.
Hey, on a du fun. On va se faire un drop, là, comme celui de Konami, je pense.
Ouais, en fait, n'importe quoi qui explose.
C'est ça.
Close enough. Puisque c'est maintenant un crime fédéral aux États-Unis et au Canada d'embarquer à bord d'un avion avec un Galaxy Note 7 en sa possession.
Wow.
Ouais. Pour ajouter aux déboires de Samsung qui tente de rappeler tous les appareils, mais que, entre autres, Post Canada refuse de les transporter, le US Department of Transportation et Transport Canada ont annoncé le 15 octobre qu'ils mettaient en place une nouvelle restriction d'urgence interdisant aux passagers d'amener l'appareil aux tendances suicidaires à bord d'un avion. Un représentant de Transport Canada a déclaré: nous comprenons que la situation peut causer des désagréments pour certains de nos passagers, mais quand même calissement moins que de se faire exploser la gueule par un téléphone.
Ah, c'est citation mot pour mot, là.
Oui, oui, c'est verbatim. Tout passager qui serait trouvé à bord d'un vol aux États-Unis avec un Galaxy Note 7 pourrait se voir obligé de payer une amende pouvant s'élever jusqu'à 179 933 $. Le montant pourrait sembler arbitraire, mais un représentant de Samsung nous a confirmé la source du montant. C'est le nombre de sacs qu'ont émis les actionnaires de la compagnie en regardant la valeur de l'action en bourse le matin même.
Aïe, aïe.
Tonne de copies, pis ça, ça énerve. Tonne de copies, pis ça, ça énerve.
Hey! Donc, qu'est-ce qui s'en vient du 24 octobre au 6 novembre?
Ben, je pensais que t'allais nous le dire.
Ben oui. Je commençais avec le 25 novembre.
Je pensais que c'était une question.
Non, non, ok. Matt, t'as-tu fait ma job à ma place?
Nope.
Okay.
Je fais à peine la mienne. Okay.
Donc, 25 novembre, pour les fans de Dragon Ball, là, qui auraient envie d'incarner un personnage...
25 novembre, t'as dit?
Oui, octobre.
OK, merci. Je suis sûr.
Non, mais tu sais, on se gossera pas pour un mois.
C'est pas un mois près.
Mais tu sais. Donc, pour les fans de Dragon Ball, ouais, qui auraient envie d'incarner un personnage qui se promène dans un monde de Dragon Ball pour rectifier les timelines, en tout cas, en tapochant sur des personnages de Dragon Ball, parce que tout le monde sait que c'est comme ça que ça se passe. Sorti au PS4, Xbox One de Dragon Ball Xenoverse 2.
Oh.
Qui sort un peu plus tard, là, le 28 octobre, pour Windows. Pour ma nièce de 6 ans, qui aime beaucoup trop danser, Just Dance 2017, sur tout, en gros.
Ouais, ah, sérieux, c'est incroyable, la quantité de plateformes.
Yup, je pense qu'il sort encore, c'est à oui. J'exagère peut-être, mais ça, je serais pas surpris. Sinon, un jeu qui me fait regretter de ne pas avoir de PS4 ou de Vita, là, World of Final Fantasy, qui se passe dans l'espèce de monde de Grimoire, qui est un monde peuplé par des personnages de tous les Final Fantasy mis ensemble, puis avec des un gameplay classique de Final Fantasy, puis des graphiques cute as fuck.
Je sais pas c'est à quel moment est-ce qu'on a ramolli en vieillissant, là, mais c'est vraiment cute.
Ouais.
C'est vraiment cute.
Puis un gameplay comme classique, puis des personnages de toutes les autres Final Fantasy. Fait que, ouais.
Ouais,
ça me prend une vie.
Je sais qu'on est vraiment en retard sur la game, ben, en fait, puis ainsi que tout le monde, c'est ça le problème, là, mais on va être dû pour se pogner une Vita. Hein.
Mm.
Ouais,
c'est ça.
Si on a de la réflexion à ce moment-là, je pense que c'est ça le truc.
C'est ça qui arrive.
Et...
Sinon, 28 octobre, pour les fans de Maudit Ro Robot, là, Titanfall 2 sur Windows, PS4 puis Xbox One. Je pense que Jeff avait aimé le premier ou joué au premier ou bêta du premier, mais moi, j'ai pas touché à ça.
J'avais joué au bêta un petit peu. Le gameplay était super solide, mais moi, un jeu multijoueur seulement, c'est pas ma salade.
C'est encore le cas pour celui-là?
Non, il y a une campagne dans celui-là. Qui a l'air très sympathique, bien construite. Non, je suis curieux.
Donc, ça serait plus ta salade? Encore
la bouffe. Ça va être ma poutine.
C'est pour ça qu'il faut arrêter d'enregistrer le pod avant de souper. Sinon, le 4 novembre, je ne suis pas capable de le dire autrement que ça. Premier volet de la série Call of Duty qui a fait réagir Matt, je pense, depuis toujours, mettons.
On va dire longtemps.
Fait que Call of Duty Infinite Warfare qui sort sur Windows, PS4 puis Xbox One.
On avait-tu parlé un petit peu dans le show?
Je me rappelle pas.
Parce que moi et Jeff, on avait juste été essentiellement rickrollé par Call of Duty quand le trailer a joué pendant la présentation de Sony.
De pas avoir un drop de ça, il me semble que ça serait efficace.
De
Rick Roll.
Ah oui, ça pourrait être utile. Mais ouais, c'est ça, on avait. Parce que quelqu'un qui l'a présenté à E3, Sony, c'était vraiment dans leur section de VR, puis c'était pourtant pas quelque chose qui avait de la réalité virtuelle à ce moment-là. Puis bref, tout le gameplay passait, puis j'étais comme, oh, ok, cool, shooter dans l'espace avec absence de gravité, puis là, ça avait l'air vraiment intéressant. Puis là, à la fin, ben, il y a le psss avec le logo de Call of Duty, puis là, c'est comme, ah, fuck.
Ouais, je me rappelle de votre réaction sur notre petit chat de ouais. Sinon, le 4 novembre toujours.
Bien sûr.
Un film dont j'attendais la sortie avec assez d'impatience, puis que je pourrais même pas aller voir cette fin de semaine-là parce que quelque chose d'autre, justement, là, que je vais vous dire tout après. Doctor Strange.
Oh oui.
Fait que c'est sûr que la fin de semaine d'après, je suis dans un cinéma près de chez nous.
Marvel, ça poudre.
Ouais. Sinon, le 4 et le 5 novembre, ben, c'est la 10e édition du BlizzCon, la convention pratiquement annuelle de Blizzard, là, qui va se dérouler pendant leur 25e anniversaire. Donc, deux jours devant mon écran, probablement beaucoup de hype que vous allez avoir enduré au prochain épisode. Ben, en fait, on va enregistrer le prochain épisode avant ça, fait que vous allez être correct pour un autre épisode, mais en tout cas...
Tu vas avoir le temps de te calmer avant d'en parler.
Ça dépend. Okay. Je peux pas le dire, ça dépend de ce qui sera annoncé.
On mérite pas! On mérite pas! On mérite pas! On est tout petit! On est à chier!
Toujours bon, hein? Toujours bon. Et c'est le nouveau moment dans le show où on prend quelques minutes pour remercier ceux qui nous ont donné du cash.
Mais Patreon. Ouais.
On a quatre volontaires, courageux et gens intéressés par ce qu'on fait, ça a l'air. Merci.
Merci.
On tient à remercier donc Marc-André Lavigne, Carl, tout simplement, probomontréal.com, qui est un autre podcast, et Steve Carfield, notre cher partenaire de Two Player Mode.
Qui sera le premier à recevoir une photo autographiée d'un coq.
Oui, c'est ça. On a mis une coupe de récompenses très, très recherchées et intéressantes qui vont évidemment être amenées à changer lorsque la situation évoluera.
C'est ça.
Voilà. Fait que, ben, merci à vous quatre.
Ben, merci beaucoup. Ça nous touche. Moi, j'ai hâte que Jeff revienne juste pour comme... un peu plus séparer mes deux segments. Sinon, aujourd'hui, dans l'univers des Divans Quest, là, en ce 24 octobre et non pas novembre, je commençais en 79, comme juste 79, là, avec la destruction de Pompéi, qui a été ensevelie sous les cendres qui provenaient du cendrier de M. René Lévesque, je crois. J'avance en 1648, signature des traités de Westphalie, un traité qui ordonne à tous les hippies de tenter de se procurer un véhicule récréatif de marque Volkswagen là, et de tomber en panne au moins à tous les 150 km. Puis plus sérieusement, c'est des traités qui mettaient fin à deux très longs conflits en Europe, là, la guerre de 30 ans et de 80 ans, puis qui sont devenus la base un peu des relations internationales là, par la suite.
J'aimais beaucoup mieux la première version.
Je sais bien. 1861. Inauguration de la première ligne télégraphique qui traversait d'est en ouest les États-Unis. Le taux de chômage de la compagnie Pony Express, qui se spécialisait dans la livraison de messages d'est en ouest des États-Unis, qui était ouverte, qui a ouvert un an plus tôt, a monté en flèche. Et voilà, hein, c'est ce qui arrive quand on fait un mauvais timing au niveau de ton plan d'affaires. J'avance en 1929, c'est le début, en fait, le 24 octobre, du crash de 1929 de la Bourse de New York, qui va marquer le début aussi de la Grande Dépression. À ne pas confondre avec le crash de 2029, qui, dans l'univers de Shadowrun, a détruit l'Internet et préparé le monde à l'avenue des Deckers.
Oui, hein. C'est sûr, vous voyez Shadowrun, ça n'en sort pas.
Et non.
Toujours, on est toujours dans Shadowrun.
Shadowrun Quest.
Oui!
1948, oui. Entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies qui définit les buts et les principes de l'ONU. Le problème, c'est que personne depuis ne l'a relu et personne ne sait vraiment quels sont les buts de l'ONU.
Éditorial.
Ben, tu sais, pas tant, là. C'est juste vraiment que ça fait pas grand-chose. 1995, lancement de la version arcade du jeu de combat Marvel Super Heroes.
Yeah.
Un jeu qui a été le point de départ d'un paquet de jeux de combat crossover là, avec Marvel vs. Capcom et tout ça. Puis quand même un bon jeu de combat. Là.
Ça crée une maudite bonne série.
Ouais. Ouais. Rien de mieux que de tapocher sur Spider-Man avec Ryu.
Pis... en sautant 30 pieds dans les airs. Pis,
Ouais, mais ça, c'est... tout le monde fait ça. Tu fais pas ça, là?
Bon, j'essaie d'arrêter.
OK. Sinon, en 98, lancement de la sonde Deep Space One par la NASA qui avait comme mission de se rendre sur un astéroïde pour faire la collecte de données qui s'est rendue sur pas le bon astéroïde qui a fait quand même la collecte de données. À ne pas confondre avec Deep Space Nine, la série de Star Trek qui avait pour mission de faire oublier la série originale de Star Trek ainsi que l'acting mémorable de son acteur principal.
I'm losing command. I'm losing the Enterprise. Ship is sailing on and on. I'm alone.
Sinon, j'avance en 2000, sorti au Dreamcast d'un jeu assez différent quand même, avec des visuels particuliers, Jet Grind Radio, là, la version nord-américaine de Jet Set Radio. Un jeu où notre personnage se retrouve en pleine guerre de territoire avec des gangs de rue rivales, là, mais où les combats se font pas avec des 9 mm et des couteaux papillons, mais avec des bouteilles de peinture aux couleurs vives et des patins à roues alignées.
C'était une belle époque, hein?
Les années 2000.
On s'ennuie de 2000.
Ben, toujours en 2000.
Ah ben.
Toujours au Dreamcast.
Les 10 qu'on s'ennuyait.
Eh ouais. Sorti de Ready to Rumble Boxing Round 2.
Yeah.
Un jeu dont on a déjà parlé, hein, parce qu'on peut y jouer en tant que celle qui sera peut-être la 45e POTUS.
Oh, on peut Madame jouer Madame Clinton, ben oui. Oui.
Puis M. Clinton aussi.
Bien sûr. Ça aurait été bizarre de mettre juste la First Lady.
Ouais, en 2000.
La Première Dame, mais pas le président.
Ouais, voilà. C'est... Fait que peut-être qu'on pourra y jouer. Pour célébrer
la victoire.
La victoire. En 2013, annonce de la découverte de la galaxie Z8 GND5296, qui est la galaxie la plus éloignée connue à ce jour, qui est à une distance de 13,1 milliards d'années-lumière de la Terre. C'était aussi la première observation faite de GND depuis le conflit étudiant de 2012.
Je l'ai pas vu venir, celle-là.
Happy birthday to you.
Je commence en 1915 avec la naissance de M. Bob Kane, ou Robert Kane, quand tu prends son vrai nom, créateur de ce super-héros relativement connu. Ouais. Qui a aussi participé dont, au script des premiers Batman, les films là, avec...
De Tim Burton.
Oui, de Tim Burton, merci. Okay. J'avance en 1954 avec la naissance de l'actuel chef du NPD, M. Thomas Mulcair. Fait que c'est ça. Hein, on fait ce qu'on a. Fait que pour oublier ça...
Hey, Batman!
Blade of Steel.
Cette semaine, j'ai décidé de parler d'un jeu coup de cœur qui... Merci.
Un coup de cœur.
Ouais.
Un coup de coup dans la bande.
C'est une erreur qu'on fait fréquemment à Dimanche West. Un jeu coup de cœur que je crois a été sous-évalué. Très, très sous-évalué. Je parle de Lord of the Rings War in the North, sorti en 2011, développé par Snowblind Studios, publié par Warner Brother Interactive Entertainment sur PS3, Xbox 360, PC et Mac OS X. Comme je disais, la réception avait été assez moyenne. On a un jeu ici qui, sur Metacritic, est à 66%, varie un peu selon les plateformes, là, mais entre 60 et 66%.
Et moi, c'est un jeu qui avait complètement passé en dessous de mon radar. J'en ai entendu parler quand j'ai commencé à faire le podcast avec toi et Jeff, parce qu'à un moment donné, vous en avez parlé pendant une de nos discussions random, où est-ce que vous alliez méga triper ce jeu-là?
Ben c'est ça, puis j'ai même... Moi, je me rappelle à l'époque, il y avait un démo de ça sur 360. Je l'avais essayé, j'ai fait « next ». Mais à mon avis, comme je disais, c'est un jeu qui est très, très sous-estimé, puis ben on va expliquer ça pourquoi en chemin.
Yay.
C'est un action RPG linéaire, avec un gros focus sur le co-op. Bon, la description est assez vague, mais ça fait partie justement du problème, de la perception qu'il y a eu sur le jeu. Fait que comme j'ai mentionné, c'est développé par Snowblind Studios. Si ça vous dit quelque chose, ben premièrement, ça a été leur dernier jeu, malheureusement. Ce qui a peut-être un peu nuit au support après la release du jeu. Il y a eu un DLC, je pense que c'était un bonus de précommande. Mais c'est la compagnie qui nous a donné le premier Baldur's Gate Dark Alliance.
Okay.
Et qui nous a donné les deux Champions of Norrath. Gardez ça en tête. Pour un action RPG, c'est un jeu qui visuellement est très beau. On a une caméra qui est plus basse que traditionnellement, plus proche de l'action. Fait que c'est une caméra qui est plus typique des jeux d'action à la troisième personne que des action RPG.
Ouais, ouais, ouais.
Puis c'est pas juste un choix de présentation, parce que le jeu a un système de combat qui est beaucoup plus demandant que le moyen action RPG. Si on pense à Diablo, Torchlight, ou dans leur catalogue à eux, à Dark Alliance puis à Champions. Premièrement, on peut jouer trois personnages différents. Et en multijoueur, on doit remplir chacun des rôles. Là. Pas de clone, pas de deux fois le personnage du même type. Donc, en fait, le même personnage, vu que c'est des personnalités différentes. On a Eradan, le rôdeur, qui se débrouille bien en mêlée, qui est très très fort au tir à l'arc, puis qui fait des dégâts plus efficaces sur une seule cible à la fois.
Un genre d'Aragorn. Hein?
Ben, c'est ça. Oh oui, on est dans les archétypes. Là. On a Farin, ou je préfère dire Farin.
Farin.
Le nain. Qui
Donald Trump, ça?
Voilà, sacrifice. Donc, il est beaucoup moins laid. Le nain, je parle.
Oui, j'imagine.
Encore une fois, qui focus beaucoup sur la mêlée, qui est vraiment le personnage plus tank, mais qui est bon à attaquer plusieurs ennemis en même temps. Et on a Andriel, l'elfe, la fille, hein, évidemment, la magicienne qui s'occupe de faire le rôle de support, le healing, mais qui a beaucoup d'attaques très très puissantes, mais qui demande de la mana, donc qui demande d'être plus délibéré, plus réfléchi.
Une gestion de ressources un peu, là.
Voilà. Le fameux personnage support qui demande plus de réflexion pour bien l'incarner. Dans le système...
De quoi?
De la réflexion.
Ah, c'est ça.
La réflexion.
On s'ennuie de Jeff, hein? C'est ça qui arrive.
Oui, c'est ça. Dans le système de combat, on doit esquiver, on peut sprinter, on peut faire des combos qui sont notés à l'écran, comme on retrouve justement dans des jeux comme Devil May Cry puis God of War. On a des attaques qu'on peut charger pour qu'ils fassent plus de dégâts. Quand on tire à l'arc ou à l'arbalète, là, on vise avec une caméra à l'épaule qui rappelle les shooters comme Gears of War. Puis en plus, même, on fait plus de dégâts quand on fait un headshot. Là. Il y a vraiment comme, bref, des éléments carrément de shooter ou de jeu d'action à la troisième personne d'intégrer là-dedans. D'ailleurs, ça fait que c'est le rôdeur est un personnage particulièrement intéressant à jouer avec un clavier souris. Hashtag PC Master Race, toujours.
Toujours.
Puis, pour continuer la comparaison, il y a même des estiques de gros ennemis, là, genre des trolls, des trucs comme ça, qu'on peut achever avec des quick time events à la God of War. Donc, c'est-à-dire quand l'ennemi est affaibli, il y a un icône qui apparaît en haut de sa tête, on pèse sur un bouton, puis on tombe dans une animation qu'on doit peser sur les bons boutons, on grimpe sa tête, puis on l'achève, etc.
Mais un méchant beau mix de style avec tout ça, là.
Ben, c'est ça. T'sais, on est dans un jeu qui emprunte beaucoup à God of War dans certaines mécaniques, qui emprunte à Gears of War, qui emprunte sûrement à quelque chose d'autre of War, mais qui n'est pas aussi approfondi que ceux-là. Puis je pense que c'est ça justement qui a mêlé la perception du monde. Parce que le jeu, visuellement, pourrait passer pour un clone de God of War. Le jeu est assez beau. Il n'est pas si beau que God of War peut l'être, parce qu'il y a beaucoup plus d'ennemis à l'écran, puis il y a plus d'exploration. Mais on est clairement en fait dans un Baldur's Gate qui rencontre les jeux de Lord of the Rings de la génération précédente, c'est-à-dire Two Towers, puis Return of the King. Fait que ça me donne un Dark Alliance boosté 2.0. Sauf qu'à cette époque-là, dans le gaming, ben, si tu prends justement les Two Towers puis Return of the King, si ils avaient poussé une console plus tard, ça ressemble quand même à God of War. Sauf que les autres étaient vraiment sur une structure très, très stricte de tableau. Puis là, tu t'embarques tout ça par-dessus Dark Alliance, qui est quand même la poutine, encore une fois, de Snowblind Studios. Puis ça donne ça. T'sais. Mais le jeu a souvent été plus comparé à des jeux d'action comme God of War et tout ça.
Puis ça ne doit pas l'aider tant que ça d'être comparé à des jeux d'action.
Là. Exactement, parce que God of War, la richesse de son design, c'est que c'est très, très évolutif. Tu as toujours, à chaque moment charnière du jeu, tu acquiers des nouveaux pouvoirs, puis ça te force à changer ta stratégie dans le jeu. Tandis qu'un action RPG, ben pas vraiment. Ou moins, en fait. Ce qui fait que ça se compare moins bien dans sur la durée du jeu. Mais par contre, tu compares ça à Dark Alliance ou même à Diablo. Bon, il n'y a pas toute la profondeur de Diablo non plus, mais il est aussi profond que Dark Alliance l'est, mais avec un système de combat qui te demande beaucoup plus ton attention puis qui a beaucoup plus de richesse, finalement. Fait que c'est pour ça que je trouve qu'on dirait que le jeu a été pris du mauvais côté pour être bien reçu. Malgré qu'il y en a des critiques qui l'ont quand même comparé à Dark Alliance en disant « Bah, c'est juste Dark Alliance 2.0. » Comme si c'était un genre de jeu qu'on a vraiment été noyé dedans. Il y en avait tellement. Il y a eu comme 4 jeux qui ressemblaient à ça. Puis là, c'est genre 6 ans après le premier Dark Alliance, d'ailleurs. Puis c'est comme « Bah, c'est tout pareil. » Mais oui, ça tente pas de donner une chance. Ouais. En tout cas...
C'est donc bien amer.
Un petit peu, quand même. Puis d'ailleurs, le jeu, en reprenant l'univers visuel de Lord of the Rings, cinématographique du Seigneur des Anneaux, là, donc, le jeu est très, très juteux. Nos personnages se retrouvent rapidement couverts de sang d'orque. Ça essaie justement beaucoup de reproduire là, ce qu'on voyait à l'écran, mais ça fonctionne très bien pour un jeu qui a un focus aussi important sur le combat.
Ben oui.
Le level design, la plupart du temps, là, il est assez intéressant, puis il est toujours conçu dans l'idée que le jeu est vraiment fait pour être joué en coop à 3. Je peux imaginer que si quelqu'un fait la critique du jeu en solo, il trouvera pas autant son compte. Parce que, exemple, là, on va arriver dans une région où est-ce qu'il y a des ennemis qui nous tirent de loin. L'elfe peut faire un dôme de protection qui permet au rôdeur de tuer les ennemis à portée sans se faire attaquer sous la protection du nain qui attaque tous les ennemis qui arrivent à portée. Il y a vraiment un beau triangle des rôles. Puis c'est ce qui fait que le jeu marche hyper bien en coop. Puis c'est sa force tout le long. Là.
C'est ce qui fait qu'on a déjà comme parlé à un moment donné qu'il faudrait qu'on s'assoie les trois pour y jouer.
Oui, puis ça aussi, c'est quelque chose, les jeux à trois. Hein? C'est quoi cette formule-là? Les Zelda viennent de le faire en 3DS. Ouais. Hein? Mais c'est quoi ça, cette coop-là à trois?
C'est pour nous autres.
Ben, ça a de l'air.
Ben, c'est ça.
Merci. Hein? Merci. Voilà. En 2011, puis vous avez fait faillite avant qu'on commence le pot, mais bon,
merci. Merci.
Voilà. Puis encore une fois, on va continuer pour faire la description complète du jeu, là, mais vous connaissez un petit peu la formule. Là. C'est du Diablo. Okay? Donc, chaque région est constituée d'un hub, d'un endroit central, un village habituellement, et d'un donjon qui est relativement linéaire à traverser. Donc, le hub nous permet de réparer nos équipements, de vendre nos gogos, de ramasser des quêtes secondaires, d'acheter quelques trucs et de repartir via un portail qui nous ramène directement dans l'action. Puis encore, avec la formule Diablo Dark Alliance, ben, y a tout plein de loot, d'équipements qui tombent, qu'on découvre, puis qui sont générés aussi de façon aléatoire. Fait que comme ça, il y a des raisons de rejouer puis de partager les équipements entre les joueurs, qui est toujours une facette intéressante de ça.
Moi, surtout l'aspect coop.
Et voilà. Et on finit la recette, hein, pour parler encore de bouffe. On finit la recette avec un arbre de talent propre à chacun des personnages. Puis encore une fois, on choisit ce qui colle le mieux à comment qu'on veut jouer. Mais c'est quand même assez dicté là, par le fait que le rôdeur est très, très efficace à distance. C'est, sérieux, ça se joue quasiment comme un shooter la moitié du temps avec le rôdeur. Là, c'est vraiment mon personnage préféré là, dans l'idée des headshots qui font... Sérieusement, ils font genre 20 fois le dégât. Genre les headshots, si tu charges un headshot, là, c'est ridicule la quantité de dégâts que tu vas chercher. Ça t'apporte à le jouer comme un shooter.
Ouais.
Puis c'est super intéressant.
Piu, 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 piu.
Mais avec des flèches. Voilà.
Twing, 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 twing. En tout
cas. Côté faible du jeu, par contre, l'histoire est excessivement inintéressante. C'est parti d'une bonne idée. Ils sont allés dans une bonne direction. Ça raconte les histoires... En fait, ça raconte ce qui se passait au nord pendant les événements des livres slash films. Bref, rien d'assez important pour que ce soit dans les livres à part une phrase. Genre, il y avait des making-of, puis ils disaient... Ah, à un moment donné, dans le livre, ils disaient telle affaire, puis c'est comme... les efforts au nord. Puis c'est comme... That's it. Et là, ils ont extravolé une histoire qui va permettre d'insérer des personnages de l'histoire centrale en caméo, juste assez pour rassasier les fans.
Faut, hein?
Puis faire une histoire qui n'est pas dicté, que tu connais pas déjà tout ce qui va se passer. Bon. Mais le meilleur personnage du jeu, si jamais vous y jouez, là, c'est Beleram, un gros aigle qui parle. Clairement, le seul personnage qui est vraiment développé.
Mais maintenant, il explique-tu pourquoi les gros aigles sont pas là au début du film? Parce que tu aurais réglé le problème bien vite, les gros aigles.
Ben justement, c'est ça qui est un petit peu comme l'humour involontaire du gros aigle qui parle, super sympathique. C'est que tu peux l'appeler en support, puis évidemment, il est quasiment tout puissant, puis il grabe les ennemis, puis il pitche dans le vide. C'est là que tu vois que c'est basé sur l'univers du film.
C'est ça.
C'est que tu pourrais quasiment tout régler. Mais on voit plus de leur faiblesse, par contre, à travers l'histoire. Le jeu utilise des choix de dialogue à la Mass Effect. T'es comme, oh cool, ça a vraiment une profondeur. C'est tellement vide, là. C'est pour donner l'impression que c'est plus un RPG et que ça a plus de richesse. Mais il n'y a pas tant de lore à explorer qu'on ne connaît pas déjà. T'sais, ils vont donner un petit peu plus des backgrounds sur les personnages qu'on a, nous, c'est quoi leur histoire. Puis on voit des personnages qu'on n'a pas vus du tout dans les films ou qui ont été à peine mentionnés. Fait que bon, c'est intéressant. Mais ça file vraiment comme arbre de dialogue à la Mass Effect. Case à cocher en arrière de la boîte, c'est fait, on passe à un autre point. Puis par contre, si on revient un peu dans la force du jeu, chacune des régions, le look de l'équipement évolue. Pour représenter chacune des régions. T'sais. Fait qu'on passe par Foncombe, donc on trouve tout le look elfique des bois. On passe par des sections qui ont été habitées anciennement par le Gondor, donc on voit les armures plus humaines, etc. Fait que ça reprend tout l'univers du film, puis c'est tant mieux parce que c'est crissement beau.
Ben, c'est ça qui est le fun, ouais, j'avoue. Là.
On a un assez bon niveau de difficulté. Là. C'est un jeu qui est agréable à jouer à 3. Il nous fera pas de cadeaux. Ça demande de s'entraider, d'être attentif à ce qui se passe avec les autres joueurs, puis de les relever quand ils tombent, qui est toujours le fun là, quand les jeux coop font ça, ou est-ce que t'as l'autre qui se trémousse.
Qui se trémousse.
Oui, il est trémousse. T'as un des partners qui se trémousse à terre. Ça qui arrive. Puis bref, on peut aller les aider pour les relever, puis ça ajoute beaucoup au feeling de coop. Fait que c'est faut pas foncer tête baissée dans le jeu. Bref, j'aime beaucoup que ça demande beaucoup de réflexes, d'analyse, puis de planning, puis que trop souvent les action RPG y en demandent pas assez. Le tout est dans un univers que plusieurs d'entre nous adorent, je crois, là, représenté visuellement de super belle façon, puis en fait, je pense de la plus belle façon, parce que ça a été le jeu visuellement qui était le plus moderne qui a été fait sur l'univers cinématographique du Seigneur des Anneaux. On parle d'environ 12 à 15 heures de jeu.
Quand même.
Moi, ouais, ben, c'est. Ben, tu sais, si on le regarde d'un côté d'action RPG. Si on compare à Diablo 3, c'est bon en salle. En tout cas. Mais si on regarde par rapport à un jeu qui est plus action, c'est très bon. Il aurait pas fallu que ce soit plus long. Parce que justement, comme je disais, les contrôles évoluent pas tant que ça. Mais à cette longueur-là, on trouve notre compte. Fait que vu que le système est plus demandant, la répétition est quand même plus remarquée que dans Diablo, hein, où on tient un bouton de souris sans vraiment y penser.
Ouais,
voilà, l'infâme clic de souris. Oh, puis en fait, tu ne cliques même plus à cette heure, tu le tiens. Ce qui te rappelle encore à quel point tu fais pas grand chose. Mais ce n'est pas le cas avec War in the North, hein, auquel je. Il faut que je donne des pattes de divan.
Ben ouais.
Auquel je donne un. Bon, personnellement, c'est sûr, c'est un 3,5 pattes de divan. Ouais, un divan elfique, là, avec tout plein de fioritures inutiles. Par Peter Jackson lui-même gossé à même Un kangourou. Non, c'est pas ça.
Ben oui, du biu-biu encore.
Un biu-biu.
J'imagine que vous vous rappelez, à moins que ce soit la première fois que vous écoutez Divan Quest, là, que dans l'épisode 33,
ah oui,
qui est l'autre d'avant. Là,
ah, ça fait si longtemps.
Je sais. On a parlé un peu de mes années d'études en génie informatique. Là. Ben, on se rappelle, j'ai droppé, là, mais...
Oui, c'est ça.
Mais quand même. À l'époque où j'étais étudiant universitaire, j'installais probablement deux distributions de Linux différentes par semaine sur mon vieux laptop HP qui avait besoin d'une carte PCMCIA là, pour avoir du Wi-Fi parce que c'était pas intégré sur la carte. Où est-ce que... Bon, tu sais, je m'installais souvent au sixième étage de l'édifice principal de l'École polytechnique dans le corridor où est-ce qu'il y a des prises Ethernet à toutes les tables.
Bien sûr.
Puis je pouvais télécharger à des vitesses assez folles, surtout pour l'époque, là, mais même encore aujourd'hui, des affaires complètement inutiles sur des newsgroups, qui, parce que c'était la seule façon de contourner les limites de vitesse qu'ils mettaient sur le reste des échanges de fichiers. Bref.
Ouais, on en mettait des efforts à rien faire.
Mais. Ouais. Fait que voilà. Hein. Fait que qu'est-ce que je faisais à cette époque-là aussi, niveau gaming? Ben, on se rappellera que je l'ai dit, j'étais étudiant universitaire, j'avais pas de maudite scène. Fait qu'en dehors de jouer... Do what you want, cause a pirate is free.
You are a pirate. Sur PC?
Ouais, c'est ça, de jouer au pirate. Ben, il me restait la solution des jeux gratuits. Puis là, on parle de genre, pour se mettre un peu plus dans... Tu sais, pour ceux qui savent pas quelle année j'étais allé à l'école, on parle de genre 2003-2005. Là. Fait que les...
t'es vieux.
Correct, t'es vieux toi aussi.
Oh, fuck.
On se rappellera que dans ces années-là, les jeux en ligne étaient encore très, très centrés sur les jeux à abonnement. Là. Tu sais, c'est l'âge d'or, je pense, des MMO. C'était l'époque où est-ce que World of Warcraft est arrivé, mais aussi avant que ça arrive, cette bombe-là, on parle d'EverQuest, d'Anarchy Online, EVE Online qui est sorti aussi dans ces années-là. Bref, tous des jeux qui me semblaient très intéressants à l'époque, mais qui me demandaient, puis c'est assez impensable pour moi à l'époque, là, de mettre à peu près la moitié de mon budget de transport en commun sur un abonnement pour un jeu, c'était non. Là, j'aime autant me rendre à l'école puis manger que de jouer à un jeu vidéo. Fait que comme pas mal de monde, j'ai essayé de trouver à l'époque des jeux qui étaient gratuits. Puis mes collègues de l'époque, ils sont tombés sur un petit bijou que moi je considère de l'époque qui s'appelait Gunbound. Mm-hmm. Donc les boys de l'époque, qui sont maintenant tous des ingénieurs, mais que j'ai malheureusement pas vu passer à la commission Charbonneau, là, présentaient le jeu comme un peu un Worms, mais où tu contrôles juste un personnage. C'est pas mauvais comme description, là, mais si on veut être plus clair, on pourrait parler d'un jeu de combat tour par tour multijoueur, mettons. Puis je vais essayer de définir un peu plus parce que...
Fait que c'est comme Worms, que tu contrôles un seul personnage. C'est ça. Multijoueur.
Multijoueur. Donc, ça a été développé par Softnix, une compagnie coréenne, comme en témoigne la musique du jeu.
Compagnie coréenne ou maison d'animation des années 80, là, je sais pas.
Ou n'importe quoi dans le côté comme de l'Est de l'Asie. Là.
En effet.
Avec la musique de ça, j'ai eu toute la semaine pour... bon, le lien est assez facile à faire. La musique de Top Shop que je vous avais fait jouer l'autre fois, là,
ouais,
qui revenait dans ma tête. Là.
C'est pas ça. Trop loin.
Bref, je ne ferai pas écouter d'autres extraits, ça vaut pas la peine. C'était pour vous donner une idée du feel. Donc, c'est quoi Gunbound? C'est apparu sur les web tout route de l'Internet en 2003. Je sais pas comment on finit par retrouver...
c'est si proche.
Donc, en 2003, ça devait être la version bêta, là, parce que la sortie officielle semble être annoncée pour 2005, là, juin 2005. En juin 2005, je n'étais même plus à Polytechnique, fait que c'est clair que j'ai joué avant. Là. Probablement une version bêta. On retrouve effectivement des éléments de Worm là, du jeu. Là. Le jeu se déroule sur une carte en vue de coupe 2D d'un terrain, où on va retrouver là, les joueurs qui vont être là, de 2 à 8 joueurs en fait, sur le même terrain, qui vont contrôler un véhicule qu'on appelle un mobile, en tout cas, mobile, ça, c'est un peu weird, là, qui va, dans le fond, essentiellement essayer de
piou, 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 piou,
ses adversaires. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'il y a comme plusieurs mobiles là, qu'on peut choisir pour piou-piouter les ennemis, qui ont toutes des particularités et des styles de jeu qui sont assez diversifiés. Là. Par exemple, on peut parler d'un insecte qui lance des genres de grenades qui rebondissent avant d'exploser, un tank qui lance des projectiles qui vont comme déclencher un éclair qui arrive du ciel quand ça touche l'ennemi, une grenouille qui lance des genres de grosses morphes qui vont coller sur le sol puis rouler une couple de secondes avant d'exploser, un tronc d'arbre genre qui pitche des boomerangs, mettons. Là. pour nommer juste ceux-là, là, mais on peut aussi parler de mammouth, de tortue, de VTT, puis en tout cas.
Là, il y a un hamburger du Henry qui peut t'attaquer.
Ça, ouais, c'est ça, avec qui pêche la salade de choux.
C'est tellement une référence locale.
Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, vous irez manger un mammouth.
Ou pas.
Ou pas. truc intéressant aussi dans la version de l'époque, là, je ne sais pas si c'est encore vrai maintenant, il y en a deux mobiles qui existaient qu'on ne pouvait pas choisir directement dans la sélection. C'est un petit dragon mauve puis un genre de cheval de guerre médiéval. Là. Puis la seule façon de les avoir, puis ils étaient très très puissants, mais c'est de choisir random comme mobile, puis tu avais une chance de tomber sur ceux-là. Huh. Ça, c'est quand même intéressant. Bref, très très varié dans le style de jeu parce que chacun des mobiles attaquait différemment, avait des attaques très diversifiées. Tu sais, c'est pas juste le look, ça changeait vraiment comment il se joue. Il y avait d'autres différents modes de jeu aussi. Là. On pouvait jouer en mode bon solo où est-ce que chaque joueur a une vie finalement. Puis le mode du score où est-ce qu'on a un nombre de vies pour l'équipe puis on respawn. Un mode tag où est-ce que c'est un peu comme solo. Chaque personne a une vie, mais tu fais un choix de deux mobiles au début. Puis le deuxième commence avec la moitié de la vie, mais tu peux le switcher. Là. Donc, tu sais, un petit côté plus stratégique, mettons, dans l'univers. Il y a d'autres modes là, qui existent, là, Jewels, puis Powerball, que je connais pas trop parce que j'ai jamais essayé, parce qu'au bout de la ligne, c'était pas ça qui était le fun. Bref, une fois dans la partie, ben, je vous laisse deviner. Hein. T'es là avec ton petit mobile, puis.
Il va être usé, ce piton-là, sur le board.
Je pense que c'est un écran. Puis le but, c'est de démolir l'autre, là, soit en lui enlevant toute sa vie. Ou en le faisant faire un bungee, là, où est-ce qu'on enlève tout le sol en dessous de lui puis qu'il tombe dans le vide. Puis là, ben, ton petit bonhomme, il monte vers le ciel sur un genre de petit truc avec une hélice. Qui est très drôle. Donc, pour faire ça, ben, comme on disait, il y a différents tirs pour chacun des mobiles. Là. Il y a toujours deux tirs différents puis un troisième tir spécial là, qui demande quelques tours pour se charger puis qui va être généralement pas mal plus fort. Chaque tir va causer un délai, finalement, qui va déterminer quand est-ce que tu vas rejouer. Fait que c'est peut-être la seule place où est-ce qu'il y a un petit peu de stratégie à intégrer dans le jeu, tu sais. Bon, certains tirs vont prendre moins de délai, ça va peut-être faire que tu vas pouvoir rejouer avant l'autre équipe, puis versus, ben, je vais prendre tel autre tir qui est plus fort, mais qui va faire que je vais jouer, ça va être plus long avant que je rejoue. Bon, tu sais, il y a comme une petite...
Ça fait penser à Final Fantasy X, mettons, là, que tu planifies l'ordre des tours selon ton type d'attaque.
Ben, c'est un peu ça. Puis bon, il y a aussi des items qu'on peut avoir qui vont rajouter du délai, mais rajouter de la force à nos attaques. Donc, il y a cette petite gestion-là du délai. T'sais. Puis des fois, tu te rends compte que je vais le détruire avec une grosse attaque, puis là, il reste une petite coche de vie, puis là, il est temps de tirer trois fois dessus avant que ce soit encore à ton tour. T'sais. Puis ça, oh, shit. Voilà, fait qu'à utiliser intelligemment. Fait qu'on retrouve un peu dans ce jeu-là, puis dans les différents mobiles qu'on a, le concept de facile à utiliser, difficile à maîtriser. Là. Mm-hmm. Parce que n'importe qui peut prendre le jeu, se débrouiller relativement bien avec la majorité des mobiles, puis réussir à faire quelque chose. Mais tu te rends compte en les utilisant qu'il y a des astuces puis des trucs qui sont reliés à chacun. Par exemple, il y a certains coups, genre le tronc d'arbre avec ses boomerangs, qui vont faire beaucoup plus de dégâts si le boomerang passe beaucoup de temps dans les airs. Fait que tu veux tirer avec des gros angles, puis là, il faut que tu tiennes compte du vent pour aller pogner. Écoute, j'ai vu à l'époque des joueurs qui jouaient beaucoup avec celui-là, puis qu'après, des games devenaient des bombes. Là, ils pouvaient te détruire en une attaque parce que... T'sais, ils arrivaient à
contrôler la physique du jeu.
Contrôler la physique du jeu, qui est quand même assez bonne, là, où est-ce qu'ils vont aller chercher un angle, le vent, puis la patente. Là. Fait que, c'est ça. Mais sinon, avec ton petit tank, tu peux tirer quand même des petits piou-piou puis réussir à faire quelque chose aussi. Donc, c'est quand même ça qui est un côté assez intéressant. Fait qu'un jeu assez simple, qui peut être facilement joué par tout le monde, mais bon, avec une certaine profondeur et tout ça. Les parties se déroulent dans des genres de rooms, des pièces où est-ce qu'on peut décider de certaines règles. Tu sais, la personne qui crée la game va décider, bon, ben, c'est 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4, c'est-tu tout le monde ensemble, c'est-tu des équipes, on peut-tu utiliser n'importe quel item. Bon, puis il peut décider un peu tout ça. Ça donnait des règles, tu sais, qui étaient assez intéressantes, puis des styles de jeu qui, tu sais, on se rappelle, quand je rejouais à ce temps-là, il y avait certains genres de règles, des fois, qui n'étaient même pas... impliqué dans l'interface du jeu, puis que les gens disaient, on prend tout random, puis là, ben, si tu le prenais pas, il kickait parce que t'es cave, on veut faire une game de même, puis là, ben, ça crée des games un peu différentes. Voilà, fait que, tu sais, c'est quoi le but de jeu-là, à part.
Piu-piu-piu-piu!
C'est mon seul drop, là, j'ai pas grand-chose d'autre à mettre.
Écoute, je trouve qu'on a un débalancement, attends une seconde. Do what you want, cause a pirate is free,
you are a pirate! Bon call.
Là, je me sens mieux.
Malheureusement, il n'y avait pas de pirates dans
les sélections?
Non, pas à l'époque, en tout cas.
Décevant. Décevant.
Bref, à l'époque, le but, il y avait des classements là, par région pour essayer d'être le meilleur de ta région, là, genre par pays, je pense même. Dans mon cas, c'était vraiment juste d'avoir du fun avec le monde avec qui je jouais. T'sais. Mais j'ai vraiment, mais vraiment passé beaucoup trop d'heures à jouer à ce petit jeu con-là quand j'étais un étudiant universitaire. Fait que c'est cette nostalgie-là qui m'a donné goût de rejouer à Gunbound. Fait que ça doit faire quelque chose comme 10 ans que j'avais pas joué, là, au moins. Là.
Ouais.
Je me suis dit que j'allais essayer de retrouver mon vieux compte parce que j'ai quand même mis beaucoup d'heures dedans. J'avais quand même ramassé de l'or parce que, bon, maintenant, tu peux mettre du fric puis acheter des affaires. Là, mais avant, c'était vraiment juste comme en faisant des bons coups, en gagnant des games, tu ramassais de l'or, tu pouvais acheter des avatars qui permettent, mettons, d'habiller ton personnage. Puis dans certaines rooms, ben, dans certains, mettons, serveurs, si on veut, il y avait comme tout était à off là-dessus, mais sinon, ça peut aussi modifier tes stats. Fait que telle affaire va booster ta force, mais va diminuer un peu ton HP et tout ça. Fait que dépendant des...
Puis pas de chapeau de pirate.
Ben, il y en avait probablement des avatars. Ah. Mais moi, je parle des mobiles. Là,
non, mais c'est correct, c'est déjà ça.
C'est sûr qu'il y en avait, là. C'est clair que tu peux avoir un petit perroquet aussi, puis tout, là.
On fait nos recherches.
Bon, oui, mais pas besoin. Bref, j'avais quand même ramassé un peu d'or, dépensé pour acheter des avatars, avoir un petit look, puis tout. Fait que je me disais, ah, m'a repogné mon vieux compte. T'sais. Puis là, tu te rends compte qu'il y a eu comme 2-3 changements de compagnie. En fait, ça se passait de Softnix à une autre compagnie, à une compagnie qui s'appelait IG, puis là, c'est revenu à Softnix.
Oh, OK.
Mais avec tous ces changements de compagnie-là, à un moment donné, je pense qu'il y a eu des problèmes avec les comptes qui ont dû être désactivés. Fait que là, mon compte était comme pas bloqué. Je peux me loguer, mais il faut pas partir. Fait que j'écris quand même au support. Puis là, ben, ils me l'ont réactivé pour me rendre compte finalement qu'il y avait comme reseté tous les comptes. Là, fait que j'avais plus rien à faire. Probablement à cause Caster, ben, tu mets du vrai fric. Puis,
Ouais, c'est ça. Ils veulent pas que tu aies de l'argent que tu as eu gratis, voyons donc.
Ah, c'est ça. Ouais, gratis. Je travaillais pas des heures et des heures. Fait que ouais, j'ai parti le jeu. Puis là, aïe aïe. Résolution maximale 1024x768 et aucun moyen de la changer. Mmh. En fait, le jeu considère que si tu réussis à changer la résolution par un truc ou un autre, c'est un avantage déloyal, puis c'est considéré comme un hack, puis tu sais, tu peux être banni. C'est vraiment... Fait qu'on joue en résolution. Par défaut, le jeu run même pas en version en full screen, il roule en Windows en 1024x68.
Ah, ça me gossait tellement les jeux qui font ça.
Fait que
là,
t'as un petit écran carré, ben, rectangulaire, en dans plus, le milieu de ton gros critique d'écran à 24 pouces chez vous. T'es comme, je vois rien. Bon, il y a une option, là, tu peux le mettre en full screen quand même, mais ça va pas super bien, même à ça. Mm. Fait que là, tu pars le jeu, tiens, il y a eu comme quand même différentes versions depuis 10 ans. T'sais. Fait qu'il y a un tutoriel, ce qui est quand même pas fou, puis quand même bien pour se remettre dedans, puis pour quelqu'un qui commencerait à jouer. Il explique bien les différentes mécaniques du jeu, te font essayer différents mobiles, les différents coups. Fait que ça, c'est quand même le fun parce que. Quand je jouais en 2003, c'était comme bon, je vais essayer lui, go dans une game, là, tu te fais démolir parce que, genre, premier coup que tu te tires ses pieds parce que, tu sais.
C'était pas mal ma seule expérience de Gunbound.
Ben voilà. Fait que maintenant, t'aurais quand même pu les essayer, en essayer différents, voir les différents coups, puis, tu sais, au moins partir avec un peu d'expérience, quelques minutes au moins, avant de te faire péter à la gueule, là. Fait que voilà. Fait que j'essaie de rejoindre la première game, puis là, il y a comme 12 mobiles que je connais pas. OK, ils ont rajouté des affaires, tu sais, c'est bon. M'en prendre un que je connais un peu.
Ça en fait quand même juste un de plus par année. Hein? C'est...
Ouais.
C'est pas si pire.
C'est pas si pire. Mais c'est ça. Fait que j'en prends un que je connais, puis je me fais péter la gueule. Et insulter pour ne pas être un professionnel de Gunbound.
Hey, bienvenue sur Internet.
T'sais, check mon avatar, le dude. Vous voyez bien, j'ai rien. Là, fait que c'est le fun, une communauté toxique. Moi, j'aime tout le temps ça.
Ben ouais.
Fait que je me tanne, puis je me dis, ben, OK, j'ai quand même quoi à dire sur le volet nostalgique de mon jeu. Puis là, en commençant mes recherches, je suis tombé sur un autre serveur de Gunbound qui, lui, roule une ancienne version. Genre, à près de l'époque où j'ai joué, nice. Ma nostalgie était contente. Fait que là, j'essaie cette version-là pour me rendre compte que, ah ben maudit, hein, y a pas grand monde qui y joue. Dans l'autre, il y avait quand même un peu plus de monde. Dans celle-là, genre, j'ai vu maximum une centaine de personnes. Là. C'était pas un gros pool de joueurs pour jouer au jeu. Anyway, puis ceux que j'ai croisés parlaient pratiquement tout en espagnol, puis ils semblaient aussi s'attendre à un meilleur niveau de performance de ma part. Là,
bien sûr. Mais tu sais pas s'ils t'insultaient.
J'imagine, mais malgré le fait qu'à côté de ton nom, il y a un petit icône qui montre ton niveau, puis sa part est un 9, puis tu n'es qu'un dragon. Là. Okay. Moi, j'étais un 9. Là. Mm. J'étais un 9, puis j'ai pas d'avatar. Comprends que je commence, là. Donc pas de la merde parce que je fais des gaffes. T'sais. Anyway, puis je parlerai pas non plus de la résolution de cette version-là qui était de 800x600.
Ow.
Oui, ow, les yeux. Le pire, c'est que je serais capable de vivre avec ça. Mais ce qui a moins bien vieilli, je pense, dans ce genre de jeu-là, c'est le fait que, tu sais, le jeu, c'est quand même de tirer un missile, une grenade, un éclair, une boulette, whatever, là. Puis d'attendre un bout de temps que ton tour revienne, tu sais.
Ouais.
Puis c'est quand même quelque chose qui est rendu assez rare que tu regardes ton écran et t'attends que ton tour revienne sans qu'il se passe rien du tout. Déjà, ça arrive, mais pas tant que ça dans les jeux, surtout multijoueurs à ce niveau-là. Mettons que je joue à Hearthstone, ben oui, mais pendant que mon opposant va jouer son tour, on va réfléchir à ce que je vais faire. Il y a une réflexion là. Je peux juste attendre de voir, il va-tu me péter à gueule ou pas, tu sais.
Ouais.
Tu sais, fait que c'est comme. Tu sais, quand je jouais entre amis, là, ou si on jouait entre amis, c'est correct, tu regardes ce que l'autre fait, c'est drôle, tu t'amuses, tu t'envoies promener, tu t'insultes, tu sais. Mais avec des inconnus qui t'insultent en espagnol, genre, là. C'est comme. C'est ça. Fait que tu sais, je pense que comme d'autres jeux, j'aurais peut-être été aussi bien de laisser de côté ma nostalgie et de laisser ça là.
Ça arrive.
Mais bon, je dirais quand même pas que c'est un jeu qui est mauvais, juste que la communauté est bien plus petite qu'elle était. Tu sais, fuck, ça fait quand même 12 ans, là, on peut comprendre. Mm-hmm. C'est pas un jeu qui est très, très là, actuel. Puis tu sais, les nouveaux joueurs, c'est sûr qu'ils peuvent pas avoir du plaisir parce qu'il n'y aura pas d'adversaire de ton niveau. Tu sais, quand j'ai commencé à jouer à Gunbound, il y avait un paquet de monde qui commençait. C'était des bêta, il y avait plein de monde. Tout le monde était poche. Puis, tu sais, à mesure que tu montais dans les niveaux, tu suivais du monde qui montait dans les niveaux. C'était agréable. T'avais... Mais là...
J'espère quasiment que c'est le même monde qui joue sur un Pentium 2 depuis le début.
Un 486 avec un piton de turbo.
Ouais, c'est un écran CRT puis tout.
Mais tu sais, au moins, il y aurait le matériel qui fait que ça roule normal. Écoute, t'as stretché le 800-600 sur mon écran de 24 pouces, c'est pas génial.
Ça doit être très agréable.
Je pense qu'on m'a laissé juste ma télé.
Pour saigner des yeux bien comme du monde.
C'est pas une Samsung, elle va exploser pareil. Reste que, tu sais, je me dis que si on se ramassait 8 personnes pour un après-midi Gunbound en gang, je serais quand même mauditement partant. Tu sais, ça peut être juste drôle. Là. Puis, tu sais, s'il faut que je donne une note à Gunbound, ben, j'irais de façon nostalgique. Là. Puis, je dirais que je donnerais un 3 pattes d'insectes robotisés avec un petit avatar coréen générique. Là. Puis j'essaie de donner une expérience à mon expérience de rejouer, une note à mon expérience de rejouer à Gunbound. Moi, avec un 2 pattes de divan pixelisé en 800x600 stretché. Fait que tu sais, ça reste un jeu qui est comme, tu sais, pour moi, un méchant bon souvenir. Là. Je dirais, je capote pas, là, j'ai pas pleuré en y rejouant. Je vais peut-être leur partir à un moment donné, tu sais, mais. Ouais, c'est ça. Hein, on n'est plus à l'époque de ça. Sauf que, tu sais, dans le fond, ça m'a quand même donné le goût de revisiter d'autres jeux free-to-play coréens du début des années 2000.
Pis... Ouais, ben ça fait, là. Hein, t'as fait assez longtemps que tu parles. Là. Garde ça pour l'épisode d'Akosa la semaine prochaine.
Ah, OK.
All right.
Good show!
Donc, ben, si vous avez envie, puis si vous le pouvez, vous pouvez nous donner un petit coup de main, un petit coup de main au podcast, oui, en passant au patreon.com/divanquest. Pour faire comme nos 4 amis qu'on a remerciés tantôt. Sinon, pour les derniers épisodes, vous allez au divanquest.com. Pour du feedback, du hate mail, au twitter.com/divanquest. Sur Facebook, au facebook.com/divanquest. Par courriel, au divanquest@gmail.com. Parce qu'on n'a jamais reçu de courriel.
Non, ouais, c'est vrai. Hein?
C'est trop 2008. le podcast est disponible avec un paquet d'autres podcasts québécois au rzweb.com, dans la playlist de Pod Québec au podquebec.com. Sur Balado Québec au baladoquebec.ca. Allez nous trouver, cliquez les petites étoiles, on aime ça monter dans leur liste. On peut nous retrouver aussi sur iTunes, allez commenter, cliquez les 5 petites étoiles, ça fait monter dans les rangs, ça nous rend plus visibles, puis ça nous fait toujours du bien de lire des commentaires. D'ici là.
Game on!
Game on! Thank you.